Et notre invité ce matin dans le 8.30, l'occasion de parler d'éducation nationale dans les Hautes-Alpes, Émeric Metz, pardon, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes ce qu'on appelle le DAZEN, l'inspecteur académique des Hautes-Alpes. L'occasion de revenir avec vous sur les annonces qui ont été faites par la Première ministre, Elisabeth Borne, il y a quelques semaines. Elle a présenté sa feuille de route politique pour les 100 prochains jours. Il a été question d'une école, comme elle a dit, transformée dès la rentrée prochaine, dès la rentrée 2023. École transformée, ça veut dire qu'il y avait certaines choses qu'il fallait transformer, qui étaient peut-être défaillantes.
L'école est en perpétuelle évolution, nous devons nous adapter de manière constante et j'ose dire intelligente aux évolutions de la société, aux attentes. Et comme tout système humain, nous devons réfléchir à comment améliorer au quotidien le service public d'éducation que nous rendons aux citoyens de ce pays.
Alors parmi les annonces, il y avait cette fameuse augmentation des salaires des enseignants qui a été évoquée pour mettre tout le monde au-dessus de 2000 euros. La déclaration n'est pas de la Première ministre, mais elle est du président Emmanuel Macron. Par contre, pour toucher plus, il faudra s'engager plus, hein, c'est ce fameux pacte, c'est-à-dire avoir des missions supplémentaires. On parle de quoi quand on parle de missions supplémentaires pour les enseignants? Surveiller les cours de récré?
Il y a deux éléments dans l'augmentation de la rémunération des enseignants. La première, c'est une augmentation inconditionnelle pour tous, à hauteur d'une centaine d'euros par mois en net. Et donc cet élément-là n'est pas conditionné à quelques missions que ce soit. Ce sera une réalité pour tous les enseignants du premier, du second degré, pour les conseillers principaux d'éducation, les psychologues d'éducation nationale. Donc cet élément-là, encore une fois, est inconditionnel. Une seconde partie qui est effectivement présentée sous la forme d'un pacte, qui pourra comprendre de une à trois missions, pourra, sur la base du volontariat, permettre à des enseignants d'augmenter encore leur rémunération jusqu'à 3750 euros bruts par an. Mais il ne s'agira pas de surveiller des cours de récréation, mais bien plutôt de répondre à des priorités. Des priorités sur lesquelles le président de la République a récemment évoqué lui-même, et notamment le remplacement des collègues absents dans le second degré, mais également l'appui aux dispositifs de soutien et d'aide aux élèves, qu'ils soient dans le cadre de la sixième, donc l'arrivée au collège, dans le cadre du programme Devoirs faits, qui est là encore en place sur le collège, mais également d'innover, de permettre à des projets innovants d'être coordonnés, d'être impulsés dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées, et dans le cadre notamment du Conseil national de la refondation, ce qui permet donc de rémunérer des enseignants pour le bénéfice de toute la communauté scolaire.
Donc, si je comprends bien, dites-moi si j'ai vrai ou pas, c'est-à-dire que, par exemple, un prof de maths est absent, son homologue peut le remplacer, c'est une mission supplémentaire. Ça se gère en interne, les remplacements.
Alors, sur les remplacements, donc nous parlons dans ce cadre-là des enseignants du second degré, donc les collèges et les lycées. Nous avons des remplacements parfois longs, parce que malheureusement, il y a des personnes absentes de manière longue, pour un congé maladie, par exemple, de plusieurs mois. Là, nous avons une nomination d'un remplaçant qui intervient. Mais parfois, il y a des remplacements courts, parce que le collègue a la grippe pendant 3-4 jours, et il faut donc, autant que possible, remplacer les heures de cours. Donc, effectivement, dans ce cadre-là, nous avons besoin de souplesse, de réactivité, et nous allons la trouver, et ça existe déjà, mais ce pacte va permettre de renforcer ce dispositif et de le rendre effectif dans tous les établissements scolaires de manière systémique, et donc permettre par exemple, effectivement, si le professeur d'anglais de la classe de 3e B est absent pendant 3 jours, ben peut-être qu'une des heures de cours pourra être prise par le professeur de mathématiques, qui fera des mathématiques, bien évidemment, et une autre par le professeur d'histoire-géographie, qui fera de l'histoire-géographie, bien évidemment, également. Et ces deux enseignants auront signé un pacte dans lequel ils s'engagent pour la partie de remplacement de courte durée à assurer 18 heures sur l'année de remplacement de courte durée pour l'équivalent d'une mission, c'est-à-dire de 1250 euros bruts à l'année.
Vous entendez quand même la musique qui va venir et qui vient déjà des syndicats, c'est de dire oui, en effet, alors ça c'est la carotte, en effet, mais le problème c'est qu'on ne renforce pas plus les effectifs.
Alors les effectifs des remplacements, encore une fois, sont des effectifs pour les remplacements de longue durée. Donc nous sommes
en global.
Mais en global, vous pouvez remplacer le longue durée, renforcer le remplacement de longue durée, c'est indépendant, puisque de toute façon, vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser des remplacements de longue durée pour faire de la courte durée sur les territoires, ça ne fonctionnerait pas. Donc il faut bien que nous ayons les deux éléments qui soient mis en place, et c'est le remplacement de courte durée dont nous parlons actuellement.
Ce pacte, en tout cas, dont vous parliez, justement, il n'a pas l'air de trop convaincre les syndicats d'enseignants, qui ont dit que seulement 30% des enseignants comptent s'engager. Une mesure séduction qui, visiblement, ne séduit pas tellement.
850 000 enseignants dans toute la France, 30%, c'est plus de 200 000 enseignants, donc, et même près de 300 000. Donc, nous verrons combien d'enseignants sont effectivement convaincus. Il y a eu de nombreuses avancées qui ont été issues aussi des discussions qui ont eu lieu entre le ministère et les organisations syndicales. Je parlais des 18 heures de remplacement. Voilà, c'est une des avancées qui a été obtenue, puisque à l'origine des travaux, on parlait plutôt de 24 heures. Donc, nous avons bien entendu chaque enseignant qui va devoir pouvoir se positionner en fonction de ses possibilités, de son envie, comme ils le font actuellement. Chacun peut, en fonction de ses envies, ajouter des missions à ce qui est l'obligation réglementaire de service, pour parler technique, qui incombe à chaque enseignant.
Alors parlons de sujets un peu plus locaux. La carte scolaire qui, chaque année, prend les formes de carte scolaire avec des communes qui sont mécontentes. Pour la rentrée prochaine, on annonce 4 fermetures de classes à Vennes, La Ragne, Seillac, la Salle des Alpes, et 2 ouvertures. Une du côté de la Fraissinous Pelletier et une à UPEX. Du côté de Vennes, c'est vrai que ça a fait couler beaucoup d'encre. Le maire s'était beaucoup impliqué dans ce sujet. C'est la fusion des deux écoles, où il y aura donc un regroupement. Qu'est-ce que ça va changer pour les élèves, pour les parents ?
Alors pour les élèves, l'objectif, c'est que ça ne change pas en termes de lieu d'accueil, puisque le maire s'était engagé à garder les 2 sites, et c'est ce qui sera fait. Et donc l'éducation nationale mettra les moyens nécessaires pour accueillir les enfants sur ces 2 sites, comme c'était fait actuellement. Simplement, pour nous, c'est une augmentation de la qualité, puisque nous regroupons, et c'était d'ailleurs le souhait majoritaire des enseignants, de regrouper sous une seule direction ces 2 écoles, et donc de permettre une continuité dans les projets pédagogiques, une meilleure qualité de l'offre éducative et donc du projet d'école, puisque ça devient une seule école, qui permet donc de mieux travailler en synergie sur tous les cycles, de la maternelle jusqu'au CM2.
L'opposition municipale s'était engagée à déposer un recours auprès du rectorat et de la préfecture. Vous avez des nouvelles de ce recours ?
Écoutez, tous les recours qui pourraient être déposés de manière générale, que ce soit à Vennes ou ailleurs, sortent de ma compétence, à partir du moment où c'est un tribunal administratif qui serait saisi. Si tel est le cas, eh bien, moi, je regarderai avec attention le suivi. Mais encore une fois, ce qui m'intéresse, moi, c'est la qualité pédagogique que l'on met en avant. Et c'est ce qui nous a conduit à faire cette proposition en accord avec la municipalité.
Du côté de la Reine Montéglin, là, il y a eu beaucoup moins d'opposition. C'était la fermeture d'une classe. Elle était attendue. En parallèle, il y a eu l'ouverture. Il y aura l'ouverture d'un poste Ulysse. Ça, on sait aussi, quand on ouvre un poste Ulysse dans les classes, dans les écoles, il faut qu'il y ait un suivi ensuite dans les collèges et voire les lycées aussi. C'est ce qui s'est fait du côté de l'Argentière, notamment.
Oui, tout à fait. Et vous avez raison, c'est très important que ces dispositifs puissent être en continuité. Donc c'est comme ça que nous les pensons, sur plusieurs années, bien sûr, de pouvoir assurer une continuité. Ces dispositifs Ulysse, donc, d'inclusion scolaire, qui permettent l'accueil d'enfants en situation de handicap, d'enfants qui sont scolarisés dans des classes, mais qui bénéficient de l'appui de ce dispositif pour prendre en compte leur spécificité et leur handicap. Donc nous essayons de les développer, et le ministre a récemment rappeler que c'était un des objectifs prioritaires qui était fixé dans les années à venir, avec, et je reprends ses propos, la volonté d'avoir une Ulysse dans chaque collège d'ici 2027. Donc nous sommes pleinement dans cette logique de déploiement de ces unités.
Et pour finir sur les écoles, UPEX et pour la Fraissinous Pelletier, c'est acté l'ouverture ?
Oui, bien sûr, ça a été voté le 27 février en CDVN.
Du côté des collèges et des lycées, quelle nouveauté, quel poste ? Est-ce qu'il y a une diminution ou plus de postes qui sont mis en place, plus d'effectifs, plus de moyens ?
Non, les moyens sont maintenus pour les Hautes-Alpes globalement sur le premier degré et sur le second degré, ce qui est une très bonne nouvelle, malgré une perte d'effectifs de plus de 130 élèves hein, sur le premier degré, qui aurait pu nous conduire à perdre des postes, ce qui n'est pas le cas. Donc je redis que c'est une très bonne nouvelle. Et sur les collèges et sur les lycées, nous avons un maillage qui est intéressant sur le territoire, hein, 14 collèges, 8 lycées, mais qui permettent d'offrir vraiment une très grande variété des parcours. Je le répète souvent, à mon arrivée dans le département, j'ai constaté que l'offre scolaire était très riche, ce qui permet à tous les collégiens et lycéens du territoire de bénéficier de parcours de formation extrêmement intéressant, que nous pouvons maintenir l'an prochain encore. Et ça, c'est encore une très bonne nouvelle.
Chaque année, on parle quand même de perte d'effectifs. Est-ce qu'il y a un seuil quand même qui est fixé pour dire oui, mais là, il faudra quand même évoluer au niveau des moyens? Les moyens sont maintenus, mais jusqu'à quand?
Les moyens sont conditionnés par des votes à l'Assemblée chaque année. Donc nous n'avons pas une projection qui nous permet de savoir de manière précise chaque année d'ici 5 ans. Mais néanmoins, nous projetons avec la connaissance de ce fait. La démographie scolaire est en baisse depuis 20 ans dans les Hautes-Alpes, donc ce n'est pas une nouvelle. Pour autant, les moyens sont maintenus. Nous savons que nous avons une augmentation de ce qu'on appelle notre P sur E, c'est-à-dire le nombre de professeurs pour 100 élèves dans le premier degré, que nous avons des taux d'encadrement qui sont très bons dans le second degré aussi, avec des classes qui sont sur des moyennes par classe inférieures à beaucoup de départements. Il n'y a pas de volonté de réfléchir uniquement sur des seuils. La volonté, c'est de réfléchir sur la qualité de l'offre que nous donnons. Encore une fois, comme je vous le disais, ça coûte parfois plus cher, hein, le rural. Nous en sommes conscients. Et le « nous » dépasse le directeur académique que je suis. C'est la prise de conscience au niveau d'une académie, quand il y a un fort soutien au niveau de l'Académie d'Aix-Marseille pour le département des Hautes-Alpes. Et nous maintenons cette offre. Encore une fois, moi, je parle beaucoup de qualitatif. Bien sûr que par moment, nous sommes contraints de regarder. Regardez, s'il n'y avait plus qu'un élève dans une classe, ça n'aurait aucun sens. Mais nous n'avons pas la volonté de réfléchir uniquement avec des chiffres, mais bien au contraire de réfléchir à la façon dont on peut assurer qu'un enfant dans les Hautes-Alpes peut avoir un parcours de réussite, un parcours d'excellence en fonction de ses compétences.
La ville de Gap a obtenu la rentrée dernière un moratoire du rectorat qui vise tout simplement à maintenir les moyens si les effectifs varient pas ou peu sur 3 ans. Cette question de moratoire, est-ce qu'elle sera déclinée dans les autres communes des Hautes-Alpes?
La question des moyens et de la visibilité de ces moyens sur plusieurs années, on avait commencé à l'évoquer, elle est importante. Et la dynamique dans laquelle je souhaite inscrire les Hautes-Alpes, c'est vraiment celle de travailler avec tous les maires, chaque maire, mais plus globalement avec les associations de maires également, sur une réflexion qui permette de se projeter en partageant nos attentes, en partageant nos inquiétudes parfois aussi sur les effectifs qui baissent et sur la façon dont on peut répondre à ça. On a plusieurs outils qui peuvent être mis en œuvre. Et donc cette idée de réfléchir de manière pluriannuelle, c'est une idée qui était engagée depuis plusieurs mois, même avant mon arrivée. Ma prédécesseure avait déjà commencé à placer les premiers jalons. Je souhaite enclencher plus encore cet élément-là. Et cela s'inscrit dans la dynamique qui, en plus, a été présentée récemment par la Première ministre suite à sa visite dans la Nièvre, mais qui s'adressait aux territoires ruraux. Et donc, le ministre de l'Éducation nationale a produit un nouveau document pour indiquer que ces travaux que nous menons actuellement dans les Hautes-Alpes, finalement, entrent pleinement dans la logique de sécurisation des territoires ruraux. Voilà. Nous ne pouvons peut-être pas créer les élèves, hein, bien sûr, mais nous pouvons sécuriser le territoire en réfléchissant collectivement aux meilleures solutions à mettre en œuvre pour, encore une fois, avoir de la qualité sur l'offre éducative. Donc c'est complètement dans le sens de ce que nous travaillons.
Merci beaucoup, Aymeric Metz, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, directeur académique pour les Hautes-Alpes, de l'Éducation nationale dans les Hautes-Alpes. Merci beaucoup.